Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions Vive mon couple, Bénédicte de Dinchin nous parle aujourd'hui du thème suivant, prendre soin de notre couple. Bénédicte de Dinchin, bonjour.
Oui, bonjour à tous. En cette fin d'année scolaire, pour la dernière émission de notre série Vive mon couple, je voudrais conclure par un rappel emprunté au père Denis Sonnet. Le père Denis Sonnet, qui a été cofondateur du Clair Amour et Famille, disait avec beaucoup de pragmatisme et de vérité, le premier enfant du couple, c'est le couple. Alors ma question aujourd'hui, c'est comment prenons-nous soin de nos couples? Comment est-ce que je prends soin de mon couple? Alors je vous propose de faire un bilan. J'aurais pu choisir une métaphore médicale ou architecturale, mais avec la nature luxuriante qui nous entoure après ce printemps extraordinaire, je prends plutôt une métaphore de jardinage. Et je vous propose de comparer votre relation conjugale à un jardin. Mais alors attention, hein, un jardin anglais plutôt qu'un jardin à la française. C'est-à-dire un jardin avec des plantes variées, luxuriantes, peut-être parfois un peu une impression de désordre, une cohabitation de couleurs harmonieuses. Pas un jardin parfait, celui du château de Versailles avec des ifs taillés et la main de l'homme qui contraint la nature. Un jardin dans lequel on est bien, qui alterne ombre et soleil et de la végétation variée. Alors, comment prenez-vous soin de votre jardin? Et déjà, êtes-vous d'accord pour dire qu'il vaut mieux qu'il soit varié et complet que parfait? Vous savez peut-être, si vous voyez des jardiniers municipaux travailler ou si vous avez la chance d'avoir un bout de terrasse, de balcon ou de jardin, qu'un jardin, ça ne se fait pas tout seul, qu'on a besoin d'en prendre soin. Et que lorsqu'on arrive dans une nouvelle maison, je pense à une jeune femme qui a déménagé en province, qui loue une maison avec un beau jardin, et puis elle a découvert au bout de quelques semaines que ce n'était pas du tout aussi simple que ce qu'elle imaginait. Et qu'en fait, les belles fleurs qu'elle avait en arrivant, eh ben, ont jauni parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, et qu'elle ne savait pas vraiment ce que c'était que de prendre soin d'un jardin. Un couple, c'est pareil. Au départ, on idéalise son conjoint, et puis arrive la phase de désidéalisation. C'est vraiment l'étape cruciale de la relation amoureuse, celle qui va aboutir à trois, peut-être, chemins différents, où je me résigne. Voilà, le jardin, il n'est pas comme j'imaginais. Je me résigne et je vivote dans un petit carré de jardin. Ou alors, je me dis, finalement, je ne suis pas du tout fait pour avoir une maison avec un jardin. J'aurais été beaucoup mieux dans un appartement. Et je me sépare. Ou alors, je me dis, mais au fond, ce grand jardin dont j'ai hérité, c'est pas comme j'imaginais, c'est plus de travail. J'y connais peut-être pas grand-chose, mais je vais en prendre soin. Et c'est exactement ce qui se passe en se mariant. On hérite d'un grand terrain. Alors, c'est un peu plus complexe parce que c'est même l'union de deux terrains différents cultivés par des familles d'origine qui ne sont pas les mêmes. Peut-être que justement, l'un était adepte de la permaculture, l'autre des friches avec beaucoup de fleurs très variées, mellifères, et un troisième n'aimait que les carrés de buis ou que sais-je. Alors, qu'allez-vous faire de ce jardin? Comment allez-vous ensemble, comment avez-vous déjà ensemble d'ailleurs, essayé de l'entretenir? Alors, pendant l'émission de ce matin, je vais vous proposer plusieurs étapes. La première, c'est déjà de la gratitude, de vous réjouir de ce qui fonctionne pour le développer. La deuxième, c'est de voir comment vous prenez soin de votre jardin. Et la troisième, c'est comme tout bon jardinier, on ne sait pas tout, on ne peut pas parfois tout faire tout seul. Et donc, comment vous faire aider? Alors, vous réjouir de ce qui fonctionne. Je vais vous faire une confidence. Ça fait 5 ans que j'essaye de planter des roses trémières dans mon petit bout de jardin. Parce que j'aime énormément les roses trémières. Ça me rappelle une maison dans laquelle j'habitais étant jeune, avec beaucoup de soleil. Et en fait, j'ai déménagé, j'habite dans un endroit beaucoup moins ensoleillé. Et pour la première fois, après 5 tentatives infructueuses, j'ai des petites roses trémières qui acceptent de s'acclimater. Alors, je pourrais arriver dans mon jardin et voir tout ce qui ne va pas. Les framboisiers ont du mal. Les rosiers partent dans tous les sens, et ben non, je décide de me réjouir et d'aller voir ces roses trémières et de me féliciter de ma persévérance. Enfin, j'ai réussi. J'admets qu'elles sont un peu fragiles et je vais justement les bichonner, en prendre spécialement soin. Alors, je vous propose, dès maintenant, pendant cette première pause musicale, de penser là à cette année écoulée et de vous dire de quoi est-ce que je peux me réjouir. Qu'est-ce qui fonctionne bien entre nous? Qu'est-ce que nous avons eu comme réussite conjugale? Quel progrès avons-nous fait cette année? Alors, je vous proposais de repenser à cette année écoulée et de vous réjouir ou de vous féliciter des progrès que vous avez pu faire dans votre relation conjugale, de ce qui fonctionne bien ou mieux entre vous. Et vraiment, je vous encourage à l'écrire, mettez-le sur un petit papier, écrivez-le dans un coin d'agenda, en note dans votre téléphone ou sur le miroir de votre salle de bain, parce que ça vous donnera comme ça un petit rappel visuel. Et puis, si vous êtes seul pour écouter cette émission, eh ben, partagez-le en couple. Voilà, parce que parfois, quand on tient beaucoup à faire progresser sa relation conjugale, on a tendance à vouloir s'occuper de ce qui ne fonctionne pas. Je continue avec ma métaphore du jardin. C'est très bien d'arracher les orties, mais on peut aussi développer les plantes couvre-sol. Et c'est ces plantes couvre-sol, très jolies et luxuriantes, qui vont aller étouffer les mauvaises herbes. Et donc de renforcer ce qui fonctionne, de lui donner plus de place, de modéliser, de bien se dire mais comment est-ce qu'on a réussi à atteindre cet objectif et comment est-ce qu'on va le continuer dans la durée, alors ça aussi, ça va donner moins de place à ce qui fonctionne moins bien entre vous. Donc vraiment, encouragez-vous de vos réussites. C'est pas une fuite de la réalité, puisque tout à l'heure, nous parlerons des deuils. Ou de comment se faire aider quand ça va mal, mais c'est aussi ce parti pris de gratitude, de décider de voir le beau et de lui donner toute la place qu'il mérite, plutôt que de sans arrêt aller regarder ce qui va mal. Je pense à cet homme qui, dans son jardin, avait des pissenlits. Une belle pelouse, mais avec des pissenlits. Et alors, ses enfants se réjouissaient de jouer sur la pelouse, ils jouaient au ballon, d'autres pouvaient se prélasser sur des transats. Mais lui était en train de tirer sur ses pissenlits. Et puis les pissenlits, on en vient rarement à bout. Donc chaque printemps, il s'acharnait. Il détestait ses pissenlits. Il ne voyait plus que des taches jaunes et non plus une pelouse qui pouvait être susciter de bons moments familiaux. Et puis un jour, un de ses amis passe, le voit et lui dit: Mais est-ce que tu sais qu'avec les pissenlits, on fait une salade? Et finalement, c'est très très bon. Et puis un peu plus tard dans l'été, il voit un de ses petits-enfants qui se réjouit de souffler sur les fleurs de pissenlit là, et de les faire s'envoler comme de la neige. Et tout d'un coup, il se dit, mais si je décidais d'aimer les pissenlits? Eh bien, c'est peut-être ça aussi que je vous propose avec cet exercice de gratitude, c'est d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas, parce que finalement, ça prend toute la place dans notre regard, un peu comme... Je ne sais pas, un pare-brise qui serait plein de moustiques ou que sais-je et qui empêche de bien voir la route. Et donc, réjouissons-nous de ce qui fonctionne. Cela dit, c'est pas forcément simple, hein, de se réjouir de ce qui fonctionne parce que peut-être que vous traversez ou que vous n'êtes pas encore remis de la traversée de cette phase de désidéalisation. Vous savez que la relation amoureuse se vit en différentes étapes. Et que ce qui prime au début, c'est le sentiment si valorisant d'être aimé et d'être choisi par quelqu'un. Et puis, même s'il y a des conflits, il y a la fameuse lune de miel, la relation est fusionnelle, avec un pic hormonal juste incroyable qui fait que finalement tout est possible et formidable. Tout est fait ensemble, l'autre a toutes les qualités. Il est un véritable prince charmant. Mais ce qui fait de votre histoire une relation adulte et équilibrée, ce n'est pas de vivre dans cette phase, j'allais dire, d'ébahissement amoureux, ou de projection amoureuse, ou de fusion. Non, c'est l'ajustement. C'est d'oser dire à l'autre que vous aimez sa fantaisie, mais que son désordre vous exaspère, c'est que vous aimez son côté intello, mais qu'elle plane vraiment trop. Et donc cette phase d'ajustement qui succède à la phase de désidéalisation est tout à fait normale. Mais pour peu qu'un bébé vous occupe, que votre boulot soit très prenant, vous pouvez vite tomber dans le regret de cette phase précédente et être tenté par le découragement, en vous disant que vous n'avez pas choisi la bonne personne ou pire encore, que vous vous êtes fait avoir. Et alors, peut-être que vous avez envie de changer votre conjoint. Parce que vous vous dites, eh ben, mon bonheur dépend du fait que enfin il devienne plus ordonné, ou que enfin elle soit capable de me prévenir de ses retards, ou que enfin il arrête telle ou telle habitude qui vous est insupportable. Alors le risque, c'est de ressasser et d'avoir un agacement qui devient une exaspération ou de la rancœur que l'on rumine. Alors si je reprends toujours cette métaphore du jardin, je vous propose de couper les roses fanées plutôt que de les regarder. Sur un rosier remontant, c'est-à-dire un rosier qui va fleurir plusieurs fois entre le printemps et l'automne, il n'est possible que cette nouvelle floraison arrive que si le jardinier habile a coupé les roses fanées. C'est ça qui va permettre à de nouveaux bourgeons de germer. C'est exactement ce que Jean Monbourquette nous propose lorsqu'il parle des étapes du deuil du quotidien. Vous avez aimé quelque chose chez votre conjoint, ou vous avez cru voir ou espérer quelque chose chez lui, et en fait, ce n'est pas possible. Vous pensiez que votre conjoint serait d'accord pour faire une retraite chaque année ensemble. Ça n'a tenu que 3 ans. Vous croyez encore que votre femme peut ranger les 4 ou 5 tasses de café qu'elle laisse traîner chaque jour alors qu'elle ne le fait pas. Vous en avez parlé ensemble, l'autre sait que c'est important pour vous, mais en fait, ce n'est pas possible pour elle ou pour lui de vous satisfaire. Votre conjoint ne peut pas vous combler alors que c'est souvent une attente inconsciente dans la vie conjugale. Alors, choisir d'accumuler du ressentiment ou d'en faire un deuil. Et je vous lis ce qu'écrit Jean Monbourquette dans Aimer, perdre et grandir aux éditions Bayard. Dans ce recueil de textes sur le deuil d'un être aimé à la suite d'une rupture ou d'un décès, il parle également d'un thème qui m'est cher, qui sont les étapes du deuil dans le quotidien. Pour Jean Monbourquette, il n'est pas nécessaire d'avoir perdu des êtres chers ou des biens précieux pour se sentir en situation de perte et entrer dans la résolution d'un petit deuil. Il prend comme exemple un rendez-vous raté. Vous arrivez trop tard à la gare pour rencontrer ce bon ami avant son départ pour l'étranger et lui dire au revoir. Le train s'ébranle et vous n'avez pas pu lui faire vos adieux. Et voici le scénario de réaction naturelle. Tout d'abord, le choc et la négation. Ah, mais je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment raté ce départ. Puis la culpabilité. Ah, mais j'aurais dû mieux m'organiser et quitter mon travail plus tôt. Ensuite arrive la colère. Ah, mais évidemment, c'est sûr que s'il n'y avait pas des grèves en permanence, j'aurais pu arriver à l'heure pour ce train. Enfin, la tristesse. J'aurais tellement aimé, voulu être là pour lui dire au revoir avec nos amis. Et puis Jean Monbourquette propose de trouver un sens à votre perte. Par exemple, cela peut apprendre à mieux s'organiser, à partir à temps, à anticiper. Ensuite arrive l'échange des pardons. Il me pardonnera sûrement ce retard de ne pas avoir été là. Et moi, je peux aussi décider de me le pardonner en retrouvant la paix, qui est donc l'étape finale, par exemple, avec un téléphone d'excuses. Pourquoi je vous parle de ces étapes du deuil dans le quotidien? Parce qu'elles permettent de faire succéder à la colère, à la déception, aux ressentiments qui sont bien légitimes. Cette étape de paix, lorsque je réalise que quelque chose n'est pas possible dans ma vie, lorsque j'arrête de m'acharner à vouloir l'obtenir, lorsque j'arrête de me juger ou surtout de juger mon conjoint de ne pas me l'offrir, alors je peux retrouver la paix et de nouveau voir ce qui, de nouveau aimer, de nouveau voir la vie, de nouveau me fixer des objectifs atteignables. Alors oui, peut-être que votre cher et tendre ne rangera jamais ses tasses de café dans le lave-vaisselle. Mais si lorsque vous arrivez chez vous, vous ne voyez que des tasses de café qui traînent, peut-être que vous ne voyez pas le temps qui a été pris pour préparer un bon repas, ou alors la phrase d'accueil qu'il ou elle va vous faire, ou le geste de tendresse qu'il vous propose. Et vous allez ruminer. C'est un peu dommage, hein, ruminer, c'est plus une histoire d'animaux. Les animaux ruminent, les hommes ressassent beaucoup et Dieu pardonne. Et bien peut-être que arrêter de se focaliser, se dire, eh ben, en fait, j'ai un deuil à faire. J'ai le deuil à faire de telle ou telle attente sur mon conjoint et je décide de l'aimer comme il est. Et ça permet de passer du jugement à l'empathie, de retrouver la paix intérieure en vous rappelant qu'il est fort probable qu'en plus, il fasse de son mieux et que vos attentes soient infondées. Et est-ce légitime d'en vouloir à l'autre alors qu'on a une attente infondée sur lui? Alors, je vous propose, pendant ce nouvel instant musical, de choisir ou de commencer à défricher ce terrain. Quels sont les deuils ou le deuil du quotidien que j'accepte de faire dans ma vie conjugale? Quelle est l'attente que j'avais sur mon conjoint et qui me paraît irréaliste, infondée, le grief injuste que j'ai contre lui et auquel je renonce pour retrouver la paix et pouvoir aimer davantage? Alors, peut-être que vous avez un petit coup de vague à l'âme là, voilà, un petit moment de tristesse, parce que oui, faire le deuil de quelque chose, ça passe par un moment de tristesse. Et c'est un moment de tristesse, mais c'est aussi quelque chose qui va vous faire grandir. Comme lorsque, je le disais, hein, vous coupez vos roses fanées pour la floraison de nouvelles roses, et peut-être que ça vous paraît plus qu'une rose, mais que vous avez l'impression de vous amputez de quelque chose, c'est une branche entière du rosier. Mais soyez certain que cela n'en rendra que la plante plus vigoureuse et que cela va permettre encore une plus belle croissance. Et vraiment, je voudrais vous féliciter d'accepter cette démarche vraiment adulte de faire un deuil, de sortir de la toute-puissance de ce côté parfois enfant éternel que nous avons, hein, qui n'accepte pas la frustration ou la contradiction et voilà, ce côté tout-puissant qui ne veut pas renoncer. Et aujourd'hui, vous venez de faire un pas, de dire, eh ben, je renonce à telle ou telle exigence ou attente infondée que j'avais parce que l'autre ne peut pas me le donner. Et avec ça, nous allons quand même construire quelque chose et continuer à cultiver notre beau jardin. Alors, comment en prendre soin? On entend beaucoup, hein, et je le dis aussi, que ce qui est essentiel pour un couple, c'est la communication. C'est parler, parler, parler. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand le conjoint n'aime pas parler? Heureusement, il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est bien de se parler, c'est bien de parler, c'est très fructueux, mais c'est important aussi de prier ensemble, et on n'est pas obligé d'avoir... de prier à haute voix. On peut même juste dire, ben voilà, on passe 10 minutes ou 3 minutes ensemble et on prie. C'est aussi quelque chose qui réunit un couple. On peut aussi rigoler, avoir des moments de légèreté. Parfois, quand on est très consciencieux et attaché à cultiver son jardin conjugal, on oublie aussi de faire des pauses et d'en profiter. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de demander à des petits-enfants de vous aider à ramasser des feuilles mortes. Alors, ils vont très bien le faire, mais à certains moments, ils vont se jeter dans les tas de feuilles mortes ou se les envoyer à la figure et bien rire. Et ça va leur donner de la joie et puis de l'énergie pour continuer. Est-ce que ça, vous êtes capable de le faire aussi? Et puis avoir des projets. C'est ça aussi, prendre soin de son jardin. Vous voyez, de dire là, ben, telle fleur, est-ce qu'elle est vraiment au bon endroit? Ou ben, finalement, on va passer plus de temps ici, est-ce qu'on ferait un potager? Alors, faire des projets à deux, ça veut dire fonctionner en communauté conjugale et c'est passer du je au nous. Alors, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on veut planter. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que est-ce que c'est ton potager ou mes roses? Alors qu'on peut faire de la permaculture qui mélange les fleurs et les légumes. Il est très courant de fonctionner en opposition, de se sentir tiraillé, d'avoir une vision un peu binaire des choses. C'est blanc ou noir. Je veux faire ceci, mais le contraire. Et finalement, je ne vais rien faire, tel l'âne de Buridan qui, vous savez, avait très faim et très soif et qui hésitait entre son avoine et son eau et qui finalement est mort de soif entre les deux. Alors qu'en fait, on peut concilier. N'ayons pas des logiques syndicalistes dans notre vie conjugale à vouloir maintenir nos avantages acquis ou camper sur nos positions parce que l'autre nous paraît menaçant, mais de dire comment concilier, comment nous pouvons et atteindre ton objectif et le faire coller avec ce qui me tient vraiment à cœur. Alors pour ça, je vous propose de vous entraîner d'une manière très simple, hein, pas forcément pendant cette émission, je ne sais pas vraiment si on a le temps, mais de le faire plus tard ou en réécoutant ce podcast, c'est de choisir, enfin de faire votre boîte à bonheur conjugal avec des actions. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau livre du Père Dei qui s'appelle Aimer en acte et en vérité. Vous voyez, il n'a pas écrit Aimer en parole, hein, il a écrit Aimer en acte et en vérité. Alors, je vous propose de choisir ces jours-ci une jolie boîte et de la remplir de petits papiers de deux couleurs différentes. Vous allez, si c'est possible, hein, avec votre conjoint, écrire chacun sur des papiers d'une couleur différente et vous écrivez 20 activités détendante, ressourçante, joyeuse, qui vous donne de l'énergie à faire à deux pour renforcer votre relation. Alors du plus farfelu au plus simple, vous écrivez chaque idée sur un morceau de papier que vous mettez dans cette fameuse boîte. L'objectif, c'est que ce soit accessible, que vraiment vous réussissiez à mettre en œuvre ce projet. Donc pour cela, vous choisissez une activité qui prend pas plus d'un quart d'heure, qui n'est pas onéreuse et qui est facile à mettre en œuvre. Vraiment, donnez-vous les garanties du succès. Donc, vous avez noté chacun une dizaine d'idées, il y en a au moins 20 dans votre boîte avec des papiers de couleurs différentes. Et chaque vendredi soir, au moment où vous vous demandez peut-être ce que vous allez faire de votre week-end pour qu'il soit réussi, et ben vous piochez un petit papier et vous le priorisez. Quoi qu'il arrive, vous ferez cette activité ensemble pendant votre week-end. Alors, ça peut vous paraître peut-être pas très romantique, pas très spontané. Alors, si vous n'en avez pas besoin, si de manière spontanée vous réussissez à prendre soin de votre couple, à passer des bons moments ensemble, si vous réussissez à éviter le piège de la fatigue, des corvées du ménage ou de l'attrait des écrans, alors vraiment, je suis très admirative et je vous félicite, mais je dis ça avec un petit peu de second degré parce que je crois que c'est vraiment très difficile dans la vraie vie d'avoir des moments comme ça spontanés à deux. Quand la fatigue s'installe, quand les enfants sont là, quand les soucis sont là, on a plus envie de se réfugier dans des choses faciles que de mettre de l'énergie pour trouver quoi faire à deux. L'avantage de cette boîte à bonheur conjugale, c'est que vous n'avez pas à réfléchir. Voilà, vous avez déjà une fois pour toutes écrit sur vos petits papiers et vous n'avez plus qu'à choisir, même à laisser le hasard choisir pour vous un petit papier chaque vendredi soir. Alors, soyez vraiment réaliste. Vous pouvez dire, allez marcher 10 minutes ensemble, mais ça peut être aussi une activité un peu sensuelle, prendre une douche à deux. Ça peut être une activité ludique, un peu intellectuelle, s'écrire un petit poème. Ça peut être aussi faire un jeu de société. Ça peut être appeler ensemble quelqu'un que vous aimez beaucoup, un de vos témoins de mariage, quoique cela nécessite qu'il soit disponible. Voilà, à vous de trouver Et peut-être, chers auditeurs, si vous avez des idées, vous pourrez les... On peut peut-être essayer de mettre ça sur le site de Radio Maria pour partager nos expériences. Mais comment, prendre soin de votre couple? Voilà. C'est important de bien réaliser que, bien sûr, il faut vous parler. Bien sûr, il faut, s'ajuster, se dire merci, se dire pardon, se dire qu'on s'aime, oser se faire des demandes. Mais en même temps, votre vie n'est pas, une thérapie de couple permanente. Votre vie, c'est de l'action, de la spontanéité, il faut aussi de la légèreté. Voilà, et partager des émotions, partager des expériences, du concret. Ça peut être faire de la cuisine ensemble, voilà, mais être aussi dans l'agir, capitaliser sur des bons moments qui se passent bien, c'est ça aussi qui nourrit la relation. Voilà, c'était. Prendre soin de mon couple. Et peut-être que vous savez déjà de quoi vous avez besoin pour prendre soin de votre couple, ce que vous faisiez au début de votre vie conjugale. Eh bien, demandez-vous, est-ce que ce serait possible de recommencer ce que vous faisiez avec l'élan du début? La sainteté, c'est pas la perfection, hein. Les saints sont des gens qui chutent et qui se relèvent. La vie conjugale, c'est pareil, elle est faite de chutes. Et l'important, c'est de choisir de se relever.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Vive mon couple avec Bénédicte de Dinchin, notre thème d'aujourd'hui, prendre soin de notre couple. Bénédicte de Dinchin, nous avons reçu un SMS de Marie-Lourdes, un SMS de remerciement. Bonjour madame, merci beaucoup pour vos émissions qui m'ont beaucoup aidée, surtout pour mes enfants qui sont en couple. Je vous remercie beaucoup, soyez bénie. À très bientôt, c'est signé Marie-Lourdes.
Merci Marie-Lou, ça me fait très plaisir. Soyez bénis vous aussi.
Alors, je voudrais revenir sur la boîte avec les activités. Est-ce
Oui.
que finalement, le but, donc chacun va bientôt, bien sûr, mettre des choses qui lui plaisent. Est-ce que finalement, le but, c'est que chacun fasse un effort de faire ce qui plaît à l'autre?
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça me paraît important de se décentrer aussi. C'est évidemment très utile et fructueux de chercher du consensus et de négocier, de faire quelque chose qui concilie le besoin d'être en plein air de l'un et d'avoir une activité culturelle de l'autre. Et donc, dans ce cas-là, ils vont plutôt visiter, voilà, se promener dans des rues d'une jolie ville, plutôt que de s'enfermer dans un musée. Mais c'est aussi bien de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer peut-être le jardin de l'autre. Ça permet voilà, de mettre du neuf dans sa vie plutôt que de se cantonner à ce qu'on savait déjà qu'on aimait et de le faire par amour. Je crois que le cœur est un muscle qui peut aussi grandir, en tout cas le cœur affectif, et que c'est une, voilà, se décentrer, faire quelque chose par amour pour l'autre, ça fait beaucoup de bien, à condition que ce soit un acte gratuit. Et c'est là où ça a une difficulté ou un défi supplémentaire, c'est-à-dire que je n'attends pas de retour, je ne suis pas dans une logique comptable et je ne lui ferai pas payer. Je pense à cet homme qui me racontait que sa femme lui avait demandé de. C'était surtout la femme qui se plaignait d'ailleurs, elle avait demandé à son mari de l'accompagner pour faire du shopping dans un centre commercial et elle me dit il est venu, mais en fait c'était horrible, il traînait en faisant une mine pas possible à 2 mètres derrière moi et c'était pire que tout. Donc ça veut dire que faire une activité que le conjoint apprécie, eh ben ce sera peut-être de regarder un match ou d'aller vous intéresser à telle ou telle exposition de sculpture alors que vraiment vous ne connaissez rien. Eh ben c'est de le faire vraiment en essayant de comprendre mieux votre conjoint. Qu'est-ce qui fait qu'il aime tellement ça? Et ça vous aidera à l'aimer davantage.
Alors bien sûr, dans le choix des activités, vous disiez il faut être raisonnable, que ce soit des objectifs réalisables. On ne va
Ouais.
pas demander à un conjoint qui a le vertige d'aller faire de l'escalade.
Exactement. Mais on peut peut-être lui demander de dire, bah là, je vais faire voilà, de l'escalade dans tel endroit en plein air. Est-ce que tu veux bien venir avec moi et on pique-nique ensemble? Et on peut aussi trouver quelque chose qui permet de ne pas avoir des frontières. Ou de dire ben, le lundi, moi j'ai chorale, le mercredi, toi t'as tennis, et puis finalement, après, on va voir le conseiller conjugal en disant ben, on vit comme des colocs et on a des vies parallèles. Et en fait, peut-être que l'art du couple aussi, c'est de vraiment dire non, on veut continuer à avoir des vies qui se croisent, quitte à ce que parfois ça fasse des nœuds et des conflits, mais tout plutôt que d'être chacun dans son ornière ou sa vie parallèle, qui fait qu'on n'a plus d'occasion de se frotter l'un à l'autre, encore une fois, quitte à se disputer. Et je m'aperçois à propos de disputes que je n'ai pas parlé de ce qui est absolument primordial. On dit la désidéalisation, c'est une phase normale, c'est bien de prendre soin de son couple, mais en même temps, une vie conjugale, c'est aussi arriver avec son lot de blessures, avec son lot d'histoires difficiles, peut-être de deuil non fait, de pardon non donné, que sais-je. Et parfois, il est absolument indispensable de se faire aider. Il n'y a pas de trop petite indication pour aller voir un conseiller conjugal ou de difficultés insurmontables si tous les deux on est décidé à la dépasser. Alors les gens souvent demandent est-ce que je vais voir, qui est-ce que je vais voir, à qui est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que c'est le prêtre qui nous a mariés, si on s'est marié à l'église, est-ce que c'est un psychologue, un thérapeute ou que sais-je? Alors, on a beaucoup de chance, hein, parce qu'il n'y a jamais eu autant de propositions pour les couples. Il y a des sessions pour les couples et les familles. Je pense par exemple à la session du clerc, hein, qui s'appelle Aimer mieux, ou alors aux sessions Retrouvailles ou au week-end Imago. Mais il y a aussi pléthore de conseillers conjugaux et familiaux très bien formés. Alors attention, il y a des gens qui s'intitulent Love Coach et qui n'ont aucune formation, si ce n'est une excellente maîtrise de la communication sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez quelqu'un de sérieux, il y a une association qui s'appelle l'ANCCEF, l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux, qui recense sur son site tous les conseillers conjugaux qui sont habilités pour recevoir des couples et qui ont une bonne formation. Et vraiment d'expérience, hein, 90% des couples disent qu'ils auraient aimé venir plus tôt. Donc dites-vous bien qu'aller voir un conseiller conjugal, ça ne veut pas dire que votre couple va très mal. Ça veut juste dire qu'à un moment, vous avez besoin d'un coup de pouce. Si on continue à parler jardinage encore quelques minutes ensemble, même si vous êtes très bon pour entretenir votre jardin, bah peut-être qu'à un moment, vous ne savez pas très bien comment vous défaire de telles mauvaises herbes ou pourquoi les feuilles de votre lilas jaunissent trop vite ou vous avez du mal à tailler tout seul une haie devenue beaucoup trop haute. Eh bien, vous faites appel à un prestataire extérieur ou vous demandez conseil à un spécialiste dans votre jardinerie. Je pense que vous savez que c'est une preuve d'intelligence finalement, d'humilité, que c'est au service de ce qui vous tient à cœur. Et bien vraiment, je vous engage à faire la même chose pour votre couple. Il n'y a pas de trop petite raison d'aller voir un conseiller conjugal. Et si vous prenez soin de votre maison, de votre jardin, de votre voiture, combien plus précieux est votre relation de couple?
Alors, nous avons reçu également un message d'Elisabeth. Bonjour Radio Maria, je remercie beaucoup notre intervenante pour tous ses conseils et surtout astuces à faire. C'est signé Elisabeth.
Merci Elisabeth.
Voilà, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose sur notre thème d'aujourd'hui, prendre soin de notre couple, peut-être comment trouver des pistes d'amélioration?
Je crois que je voudrais revenir sur prendre soin de son couple, c'est faire fructifier ce qui va bien. Je vous le dis avec d'autant plus de conviction que ce n'est pas du tout mon tempérament naturel, si je peux vous faire une confidence. Moi, j'ai plutôt un côté idéaliste et ce qu'on appelle en psychologie un tempérament promoteur. J'aime faire bouger les choses et faire bouger les systèmes. Et ce qui peut être efficace dans une organisation, dans une entreprise, est parfois finalement très éprouvant pour le conjoint. Et il a fallu beaucoup de temps à mon mari pour pouvoir me dire, mais si on arrêtait en permanence de parler de ce qui va mal. On ne faisait pas que ça, hein, mais c'était sa perception. Et si de temps en temps, on pouvait juste se poser et qu'on pouvait juste vivre tranquillement. Vous voyez, il en avait un peu marre d'être marié avec la conseillère conjugale de service. Et voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, beaucoup de temps à comprendre que ce n'est pas à l'autre de changer, que l'autre n'est pas responsable de mon bonheur, et que finalement, toutes ces phrases qui peuvent paraître, me paraissaient moi peut-être difficiles à entendre, et ben, ce sont des occasions de croissance personnelle. La vie conjugale, le but, ce n'est pas que ce soit du développement personnel. Ce n'est pas une assurance de bonheur et ce n'est pas la garantie que voilà, qu'on n'aura pas de soucis. Oui, il y a des embûches, oui, il y a des difficultés, mais ça fait grandir. Et si vous arrivez, comme j'essaye encore de le faire, et j'ai parfois du mal à le faire, à dire, mais là, je mets de côté ce qui me fatigue et je profite de ce qui va bien, je me réjouis de ce qui va bien et je le dis à l'autre. Je crois que ça, c'est vraiment aussi un gage de... C'est peut-être tout simplement du bon sens, hein, mais c'est vraiment très important aussi pour prendre soin de votre couple et pour éviter le découragement. On en revient à ces personnes qui ont un jardin et qui disent, bah, moi, j'ai jamais le temps de me poser dans mon jardin. J'ai même pas de transat dans mon jardin parce qu'en fait, je passe mon temps à travailler dans mon jardin. Et bien, je ne sais pas si c'est ça qui nous est demandé dans la vie conjugale. Donc, je vous invite à faire ces pauses, ces repos pour vous dire, mais oui, j'ai l'autre est mon chéri, c'est mon bien-aimé. Et il a aussi des qualités et j'aimerais, voilà, je décide de m'en réjouir et de les faire, voilà, et de leur donner toute la place qu'elles méritent plutôt que de m'acharner sur ce qui devrait fonctionner mieux.
Et nous venons de recevoir un SMS d'Agnès. Nous allons terminer donc avec ce message. Bonjour à toute l'équipe de Radio Maria. J'ai pris votre émission en cours. Je crois comprendre qu'il faut prendre soin de son couple. Je vous partage mon témoignage. Je n'aime pas le football, mais je m'y intéresse pour partager avec lui. Il ne sait pas que je n'aime pas du tout le foot, mais ça me fait plaisir de l'écouter. Quand il parle football, je ne comprends pas vraiment, mais une manière de vivre des choses en commun. Merci de m'avoir réconfortée. Bonne journée à vous. C'est signé Agnès.
Eh ben, vous êtes trop forte, Agnès. Voilà, votre conjoint a de la chance. Merci de partager ça. Ça encourage effectivement tous ceux qui choisissent d'aller sur voilà, le territoire de l'autre et s'intéresser à ce qui les intéresse, encore une fois, sans hypocrisie et sans attendre de retour, ce qui est peut-être ça une définition de l'amour, aimer sans attendre de retour.
Et merci à vous, Bénédicte de Dinchin, pour cette série d'émissions Vive mon couple.
Eh bien, je vous en prie, au revoir à tout le monde.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Vive mon couple avec Bénédicte de Dinchin. Notre thème d'aujourd'hui, prendre soin de notre couple. Et vous pourrez réécouter cette émission et l'intégralité de cette série Vive mon couple sur notre site internet en podcast www.radiomaria.fr.